I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello les légendes, 43e épisode cette semaine. Il aurait pu ne jamais voir le jour puisque notre invité était à un cheveu d'arrêter le tennis il y a quelques années. Aujourd'hui lancé après avoir passé la barrière du top 100, on a le plaisir de recevoir le décontracté Greg Barrère. Il revient pour nous sur la fameuse discussion avec sa copine qui l'a dissuadé de mettre un terme à sa carrière. On aborde ensuite son choix de rejoindre la All In Tennis Academy. On parle prépa physique et mentale avec un certain Joe Tsonga qui l'a aidé à franchir le pas. On évoque Roland Garros évidemment, où Greg a déjà foulé la terre un paquet de fois. Notre invité décortique ses coups forts et celui qui l'a le plus fait évoluer. On revient sur son premier confinement strict, comme nous tous d'ailleurs, mais que Greg a vécu avec son pote Lucas Pouille dans une maison équipée d'un terrain de tennis dans le sud de la France. Grégoire nous confie sa plus belle rencontre sur le circuit, quelques anecdotes en Coupe Davis et on termine par les traditionnelles questions de fin. Le joueur français n'a jamais botté mes questions en touche et assume pleinement ses choix, ses réponses, c'est un plaisir de découvrir son parcours. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa pour devenir une légende dans notre cœur et nous aider à faire connaître la chaîne. Sachez que vous avez aussi 2 formations gratuites en description de l'épisode. La première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabs Barreau. La seconde pour jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement avec 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100 et ses cadeaux. C'est parti pour ce 43e épisode avec Grégoire Barrère. Bonne écoute et bonne découverte à tous.
J'ai bossé sur ton cas.
Ok, on va voir ça.
Alors Greg, t'es né le 16 février 94 à Charenton-le-Pont à côté de Paris.
C'est ça.
Tu mesures 1m83 pour 80 kg et t'es joueur de tennis professionnel depuis 2012. Ton père était 15-2, ta mère 15-5.
Ouais.
T'as deux frères et sœurs. Tu te situes où toi par rapport à eux ?
J'ai un petit frère et une petite sœur et un demi-grand frère et une demi-grande sœur. Je suis au milieu.
Ok, d'accord.
Mon petit frère, ma petite soeur, ils jouent au tennis, mais pas les grands.
T'as commencé le tennis à 5 ans dans le club à côté de chez toi, à force d'accompagner tes parents sur des tournois.
Ouais.
Tu dis dans une interview pour Tennis Break News que t'étais un peu potelé, pas rondouillard, mais presque. Mais ouais. Que tu étais déjà assez fort quand t'étais petit.
Voilà, exactement.
On peut dire que t'as eu 2 carrières. La première où t'es monté 190 en septembre 2012, avant de progressivement perdre pied et retomber 624e. 2018, 6 ans plus tard.
Ouais, ouais.
Sur la bio de ta fiche ATP, tu rends d'ailleurs hommage à ta copine Marion Codino qui t'a poussé à continuer de jouer au tennis quand tu as arrêté ta carrière.
Voilà, c'est vrai.
A priori, elle a bien fait, et toi aussi, puisqu'après une pause d'un mois sans toucher la raquette entre août et septembre 2017, t'es reparti de l'avant et aujourd'hui t'es top 100.
Exactement.
Ton coup préféré est le revers, ta surface, le dur intérieur, et le tournoi que tu kiffes le plus est Wimbledon. New York est la ville où tu préfères voyager grâce au circuit. Les joueurs qui inspirent ton jeu sont Marat Safin et Paul-Henri Mathieu. Tu as été 55e junior à ton meilleur et tu avais eu une série de 17 victoires sans défaite en 2010, dont une contre ton pote Lucas Pouille.
C'est Tissoder, je crois, ou c'est. Ouais, c'est ça. T'as bien bossé.
T'es actuellement coaché par Marc Jiquel et Nico Copin à la All In Tennis Academy fondée par Thierry Assion.
Ouais.
T'as commencé par une honorable série de 7 défaites consécutives sur le circuit, mais t'as bien rebondi depuis.
Voilà.
Pour le moment, t'as été 80 au mieux en juillet 2019. En 2016, t'es wildcard à Roland, tu perds contre Goffin au premier tour. Mm. Je m'en souviens bien parce que j'étais avec ma copine de l'époque, à qui tu disais pas mal d'effets.
Ouais.
Pas beau si tu nous écoutes. En 2018, Rebelote contre Albot en menant 2-7-0. Tu gagnes ton tout premier match sur le circuit principal à Marseille en 2019 en étant lucky loser contre Vesely au premier tour. T'es wildcard pour la 3e fois à Roland en 2019 et gagnes ton premier match en grand chelem contre Ebden. Tu perds ensuite contre Kachanov à qui tu colles quand même une bulle au 4e. T'iras au 2e tour à Wim et de l'US en 2019 également. Tu t'es aussi envoyé le titre à Quimper et Lille en challenger l'année dernière. T'as fait finale à Orléans. Début 2001, tu réalises ta plus belle victoire en termes de classement en battant Dimitrov, 23e à Montpellier. Tu vas au deuxième tour à l'Australian. Tu te qualifies à Doha contre Chardy. Tu as joué à Adélaïde, Rotterdam. Tu vas en quart sur le Challenge d'Indian Wells en battant Tiafoe. On a clairement la sensation que ta carrière est lancée. Tu es pour le PSG, ton joueur préféré est Kylian Mbappé. Il paraît que tu as toujours de la chatte au backgammon.
Ouais. Avec les deux en général.
Ok, c'est bon signe. Tu te décris comme trop gentil. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Greg ?
Je trouve que c'est assez complet. Voilà. Après, sur ma carrière tennistique, on va dire que ça a un peu évolué. J'adore le dur indoor. Maintenant, je commence à un peu aimer toutes les surfaces. Ouais, je continue à progresser. J'ai battu. Voilà. Avant, j'avais du mal à battre des bons joueurs. Et petit à petit, je commence à voilà, tout le temps les accrocher, à les battre. Donc, voilà. Et que j'essaie d'être un peu moins gentil sur le terrain, un peu plus guerrier. Et voilà. Ça fonctionne pour le moment, maintenant il faut continuer, voilà, j'essaie de pas de rayer ce côté-là de moi, mais essayer d'un peu de le faire évoluer.
Yes. Quelle a été ta progression chez les jeunes en termes de classement ?
Ça a toujours été assez linéaire, je prenais à chaque fois à peu près 3 classements, j'ai dû faire un non classé, 33, 15-5, 15-2, 4-6, 2-6 à chaque fois avec les intermédiaires, et je crois que j'ai fait 2-6, moins 2, moins 15, et après je suis passé promo. Voilà, je crois que, il me semble que c'est à peu près comme ça.
Et à partir de quel classement réellement tu commences à penser à devenir pro ?
Surtout quand j'ai intégré l'INSEP. J'avais 15 ans, 15 ans et demi, je passais moins 2. À ma rentrée à l'INSEP, je passais moins 2, et là, le fait de rentrer voilà, dans cette structure avec tous les autres sports, on voyait les athlètes qui allaient au JO. Je m'entraînais avec les mecs qui étaient en Pôle France avant. Moi, j'avais pas fait les pôles, donc je savais que j'étais parmi les meilleurs Français du coup. Et c'est à ce moment-là où vraiment je me suis dit, je vais tenter ma chance sur le circuit.
Et à la place des pôles, du coup, t'as fait quoi ?
Dans mon club, j'étais donc dans mon deuxième club à la LP au Perreux, et j'ai fait tout le collège quasiment normalement, à part la troisième où j'étais en horaire aménagé. Donc voilà, j'allais en cours le matin en troisième et l'après-midi je m'entraînais. Et après le brevet, pour le lycée, j'ai fait l'INSEP.
Et à l'INSEP, du coup, tu es avec Lucas ?
Lucas, Mathias, Bourg, il y avait Locoli aussi, et après les plus vieux pour notre première année, et ensuite c'est nous qui sommes devenus les plus vieux.
Quelle a été la première fois où tu as stagné finalement, comme ta progression a été linéaire ?
Déjà, je vais te dire, à l'INSEP en junior, je suis monté 55 à 16 ans, je crois, et après, j'avais plus vraiment envie de jouer les juniors, je voulais plutôt partir faire des futurs. Voilà, fallait quand même, par rapport à la Fédé, avec mes entraîneurs, ils voulaient quand même que je joue les juniors. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé un peu à stagner parce que, voilà, j'avais plus trop envie d'y aller. Et du coup, je gagnais pas trop de matchs en junior. Je faisais les futurs, mais j'avais pas le niveau non plus. Donc, je gagnais pas énormément de matchs. Donc, c'est une période où j'ai gagné un peu moins de matchs. Et après, en sortant de l'INSEP, j'ai mis un peu de temps quand même à monter, à faire régulièrement des demi et des finales de futur. J'ai stagné un petit moment entre, allez, on va dire 1200 et 600e mondial. Même si au classement c'est beaucoup de places d'écart, au final c'est, elle est peut-être 10 points d'écart. Donc j'ai passé, je pense peut-être un an à ce classement-là. À chaque fois, il y a eu des petits déclics et où j'ai commencé à battre un bon mec, à faire quelques résultats. Et après, c'est reparti. J'ai remis du temps à chaque fois à repasser des étapes. Donc, ça a été ça un peu tout le temps. Voilà, comme pour gagner mon premier match sur le circuit, j'ai mis pas mal de temps avant d'en gagner un. J'ai toujours mis du temps pour passer les étapes à partir du moment où j'ai quitté les juniors. Quoi.
Et tes potes jouaient les tournois juniors au moment où toi, tu avais envie de faire les futurs, ou vous en étiez où tous ensemble ?
On était un peu tous ensemble, mais il jouait aussi Lucas était beaucoup blessé, donc lui, il a un peu moins joué le circuit junior. Mathias, lui, gagnait quasiment tout quand on avait 16 ans sur Terre. Il était injouable, donc il a été très vite très bien classé dans les 10. Donc il avait aussi l'envie de bien faire et de jouer parce que voilà, il pouvait prétendre à être top 5 et pouvoir gagner un titre. Donc il jouait aussi le circuit junior à fond, et on jouait tous un peu quand même les futurs, mais on n'avait pas encore vraiment le niveau pour pouvoir rester et faire que ça, quoi.
Ouais. Est-ce que tu as une anecdote marrante chez les juniors que tu pourrais nous partager ?
Chez les juniors, ça remonte tellement loin. J'ai le souvenir qu'à Beaulieu, il y avait je sais plus qui c'est, je me demande si c'est pas un Russe qui avait pété tout dans les vestiaires. Alors bon, on avait 16 ans, 17 ans, donc c'était pas très grave non plus. Je me souviens qu'il y avait pas mal de joueurs qui se mettaient beaucoup de pression, alors qu'au final, une fois qu'on termine le circuit junior, on se rend compte que voilà, on repart à zéro complètement. Donc voilà, ça servait pas à grand chose d'avoir autant de pression à ce moment-là. Donc mais ouais, je crois qu'il me semble que, alors je sais plus exactement quel joueur, mais j'ai le souvenir qu'un mec avait tout pété les vitres dans les vestiaires de Beaulieu, quoi.
Quel restera ton meilleur souvenir, toi, chez les juniors?
J'avais adoré ma première tournée à Miami. C'était la première fois que je voyageais pour le tennis en dehors de la France, vraiment. Enfin, je me souviens, j'étais parti avec Gianni à l'époque et à Louis Buss. Gianni, il jouait le titre en junior. J'avais 2 ans de moins que lui. J'étais pas parti avec les autres faire la tournée Mexique et d'hier. J'étais juste venu pour l'Orange Bowl en 16 ans et lui, il jouait pour le titre en 18. Et je sais plus s'il gagne ou il fait finale sur SOC, quelque chose comme ça. Donc déjà, je me disais, putain, je suis avec un grand, le mec est numéro 1 mondial, numéro 2 mondial junior. Donc on avait passé 10 jours là-bas, donc c'était vraiment cool. Après, sur le tournoi, il y avait tout le monde, donc c'était vraiment sympa. Puis en soi, bah, toutes les tournées, elles sont incroyables chez les juniors. On est quasiment dans des beaux hôtels tout le temps. On va en Australie, à Melbourne. On va, voilà, la tournée 4 d'Ice Beaulieu, elle est géniale aussi, avec tous les Français. On se marre bien. Le seul petit truc un peu chiant, c'est quand à l'INSEP, on allait faire cette tournée, il nous amenait un prof avec nous pour faire des cours, quoi, pendant la tournée. C'était un peu dur, ça. Ça, c'était faire des cours pendant que les autres s'amusaient, quoi. Mais bon, on n'avait pas le choix. Et puis au final, on a eu notre bac, comme ça.
Et il devient quoi, Gianni Mina?
Il a eu pas mal de pépins physiques. Il a pas mal de blessures un peu tout le temps. Cet hiver, il s'est entraîné avec nous à l'académie. Donc, il était plutôt en forme. Voilà, il allait bien. Sauf qu'il a eu des petites rechutes là, en repartant sur des futurs. Il était en Turquie, je crois. Il a eu des petits bobos. Donc, c'est un peu compliqué pour lui en ce moment.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter la manière dont tu as traversé un peu le circuit, la jungle des challengers et des futurs?
Moi, on va dire que déjà, je privilégie énormément les tournois en France. À cette époque-là, j'aimais pas trop voyager, donc voilà, je faisais plutôt des tournois corrects. Voilà, les futurs en France, ils sont très bien. On n'est jamais dans des conditions pourries comme on peut avoir quelquefois. J'en ai fait aussi, mais donc on va dire que ça a été un peu plus facile pour moi au début. Donc voilà, j'ai tout ça. Après, j'ai eu quelques tournées compliquées. Je suis allé en Géorgie une fois, c'était un peu la galère. C'était, je sais même pas si on peut appeler ça des terrains de tennis. La surface, c'est même pas de la terre battue. T'as bien un camion citerne qui venait 2 fois dans la journée pour arroser les cours, mais c'était l'enfer. Voilà, la ville était pourrie. J'étais avec un pote, on était au bout du rouleau, on pouvait manger le midi que dans des kebabs. C'était un peu dur, mais voilà, il y a eu des tournois compliqués, c'est sûr, mais en général, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ma proc soit toujours agréable et je n'ai pas trop à voyager, donc comme ça, je pense que j'ai gâché moins d'énergie, moins d'influx en partant que dans des tournois où ouais, faut le dire, il y a des tournois, c'est vraiment pourri, quoi. T'as limite pas envie de jouer au tennis, quoi. Et après, une fois que j'ai joué des challengers, là, il y en a qui restent pas terribles, mais la plupart des tournois, ils sont vraiment bien, quoi. Et pareil, pour le coup, on a de la chance en France d'en avoir plein. Voilà, c'est des mini grands prix, donc tu peux jouer. Plus d'un tiers de l'année en France facilement, quoi. Déjà, ça aide pour nous, les Français.
Donc, tu montes 190 dans un premier temps. Tu sens que t'es pas loin. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se passe dans la foulée?
Bah, à ce moment-là, ouais, je me dis que je suis pas loin. J'ai commencé à jouer Roland. Je me qualifie à Wim. Non, je perds à Wim avec balle de match au deuxième tour sur Albano Olivetti. Cette défaite, ça m'a fait mal. Donc, je me dis, ouais, que je suis pas loin. Alors qu'au final, quand t'es 180, bah, c'est pas comme si t'avais tout à refaire, mais tu dois regagner tous les points que t'as déjà gagnés pour pouvoir te rapprocher des 100. Donc, il y a un énorme gap. Donc, voilà, c'est peut-être le problème de m'être dit que j'étais pas loin. Ça m'a un peu mis une pression et en même temps un petit peu relâché. Peut-être pour ça, je me suis un peu moins bien entraîné. J'ai commencé à perdre des matchs que, voilà, dans ma tête, je me disais que j'aurais pas dû perdre. Et de fil en aiguille, bah, la confiance, elle part. J'avais moins envie de m'entraîner, moins envie de voyager. Je voyais que je défendais pas forcément les points de l'année d'avant, donc je coulais au classement, j'avais pas envie de refaire des futurs. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que bah, au final, on peut pas jouer, parce que les mecs, ils jouent maintenant tous bien à n'importe quel classement. Donc ouais, tu peux descendre très vite, comme tu peux monter très vite. Donc ça a été, voilà, pendant un an et demi, j'ai pu gagner un match, c'est pour ça que je suis redescendu 600-650. Mais après coup, voilà, je sais que je m'entraînais plus comme il le fallait, j'avais plus la motivation pour partir, je préfère rester chez moi. Et voilà, et c'est pas compatible avec le genre de tennis.
Et tu peux nous recontextualiser la discussion avec ta copine qui t'a un peu relancé, a priori?
Bah déjà, on était parti un peu, je me souviens, j'étais en tournoi au Portugal. J'avais deux futurs à faire. J'avais pété les plombs. Je me souviens, j'étais avec Alex Muller. Je pense qu'il m'en reparle à chaque fois que je le croise au CNE. Il me dit, putain, tu te souviens quand on était là-bas à cette époque-là, tu balançais les balles partout, t'en pouvais plus. Et donc voilà. Et après, en fait, donc j'ai décidé de me retirer des autres tournois. Et ma copine m'a rejoint. On a fait trois jours à Porto ensemble. Où, voilà. Parce qu'il faut dire aussi, quand on fait les futurs, on peut pas partir en vacances parce que t'as pas les moyens et faut jouer toutes les semaines quasiment pour essayer de gagner des points et en ranger le maximum. Donc c'était la première fois un peu, on va dire, qu'on se laissait un peu du temps ensemble et voilà, on a beaucoup discuté. Moi je savais plus quoi faire. J'avais appelé la Fédé pour dire que je partais. Voilà, fallait que on a discuté, savoir si voilà, moi je disais j'ai envie d'être coach, je vais passer le BE, j'en ai marre, je veux plus voyager. Et elle m'a dit mais non, voilà, je crois en toi, voilà, tes parents croient en toi, tout le monde croit en toi. Voilà, fallait retrouver une structure après adéquate pour me réentraîner et surtout avec qui j'avais envie de m'entraîner et avec qui j'avais envie de partir en tournoi. Et donc au final, voilà, la structure, je l'ai très vite retrouvée, mais j'avais quand même besoin de me laisser du temps pour voir si le tennis me manquait, quoi. Donc on s'est dit bon bah voilà, je fais rien pendant 3-4 semaines. Allez, j'essaie de faire un peu de physique pour m'entretenir, mais bon, même ça a été dur. J'avais pas forcément envie non plus et au final je me suis rendu compte que ouais, ça me manquait, que les voyages me manquaient aussi finalement. Voilà, c'était un mois chez moi, ça devenait long aussi, donc voilà, j'avais un peu la bougeotte et je suis reparti au charbon, quoi, on va dire.
Un rapide break pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de nous mettre un like, puis de récupérer vos 4 optimisations pour savoir ce que la stat dit de votre jeu ou les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant passé sur le podcast. C'est gratuit, les liens sont juste en dessous en description, on y retourne.
Du coup, ta structure, tu l'avais déjà en tête à ce moment-là ?
Bah, quand je suis parti de la Fédé, non, je l'avais pas en tête parce que là, vraiment, pour le coup, je savais pas si je voulais rejouer. Et au bout de 2-3 jours, voilà, j'avais des idées comme quoi je voulais peut-être partir dans le sud, complètement m'aérer, passer à autre chose. Mais bon, en même temps, ma copine était sur Paris, a bossé sur Paris. Je suis de région parisienne à la base, mes parents étaient sur Paris, tous mes amis sont là. Et j'avais envie de rebosser avec Mathieu Rodriguez, avec qui j'avais déjà bossé à l'époque pendant un an et demi. Et lui, il s'avérait que lui, il avait repris des études, mais il avait trouvé un poste d'entraîneur à l'académie de Thierry chez All-In. Donc il m'a dit bah voilà, rencontre Thierry, ça serait cool. Moi je lui avais dit que je voulais retravailler avec lui. Et donc comme j'étais toujours en vacances au Portugal, mes parents sont en premier à aller voir Thierry pour voir comment ça se passait. Et ils ont eu un très bon feeling. Et après j'ai eu Thierry au téléphone, on s'est vu. Et il s'avérait que voilà, c'est l'académie, elle était à 10 minutes de chez moi, donc en métro. Donc voilà, c'était assez, assez facile. Et donc ça s'est fait comme ça. J'avais envie de bosser avec Mathieu. Je connaissais Marco qui était à l'académie, qui j'avais côtoyé sur ses derniers tournois et qui m'entendait très bien. Nicolas Copin, je l'avais connu, lui, il entraînait les filles à l'INSEP, donc voilà, je m'entendais bien aussi avec lui, je le connaissais. C'était des personnes avec qui j'avais envie de bosser et donc voilà, on s'est dit, on a eu une discussion tous ensemble et on s'est dit, eux m'ont dit qu'ils me laissaient du temps, que voilà, il n'y avait aucune pression de résultat et tout ça, qu'on allait bosser, que ça allait prendre du temps de toute façon pour revenir à un bon niveau. Et c'est la première fois aussi que je me suis laissé du temps pour progresser et ça a très vite fonctionné.
C'est bon ça.
Ouais.
Donc clairement, c'est quoi ? C'était de la fraîcheur mentale qui te manquait ? T'as changé quoi précisément pour parce que t'es revenu mais ultra rapidement, quoi.
Bah alors on peut croire que c'était rapide, mais pour moi c'était pas si rapide que ça parce que je reprends un peu les entraînements fin août et surtout j'ai dû refaire deux semaines. J'avais refait deux semaines complètes que de physique sans tennis parce que j'étais tellement à la rue qu'il y avait besoin. Voilà, j'avais recommencé les futurs en France au moment de Mulhouse, il me semble, et je crois que j'avais repris à Mulhouse. J'étais parti avec Marco. J'avais dû perdre au deuxième tour sur David Guez, que j'aimais bien jouer à l'époque, donc ça m'a fait remal de perdre sur lui. Et à chaque fois que je jouais les tournois en France, je passais un tour, soit je faisais le premier tour, donc jusqu'à la fin de l'année, quoi. J'avais dû refaire une finale sur un futur, un 10 000 en Angleterre, qui était faible. Ça a été quand même long, mais je me disais, bon, bah, c'est pas grave, tu t'entraînes, tu fais quelques matchs pour garder un peu le contact avec les tournois. Mais en tournoi, tu t'entraînes, tu fais ce qu'il faut. La saison, tu vas l'arrêter plus tôt parce que de toute façon, tu joues rien pour aller en cave de Grand Chelem ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai pu prendre, j'ai fait quasiment 2 mois de foncier, c'est à ce moment-là. Et voilà, on a pris le temps de rebosser sur à peu près tout, quoi. Limite, pas réapprendre le tennis, mais presque. Et voilà, physiquement, de me faire progresser parce que voilà, j'étais complètement à la rue et j'étais content d'aller m'entraîner, content de les voir tous les jours, content de partir avec eux en tournoi. Voilà, j'ai essayé de partir un max avec soit Marco, soit Mathieu à l'époque. Et voilà, c'était un plaisir, on va dire, de rester toute la semaine en tournoi après quand j'ai repris la saison. Ouais, là, ça a été assez rapide. J'ai gagné 2 premiers tournois en France, Derrière, j'ai fait qualifier vainqueur à Lille. J'ai eu la chance de faire qualifier vainqueur aussi au bon moment et que ça m'est remonté direct dans les challengers. Donc, c'est sûr que si j'avais fait 6 mois de plus en futur, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est vrai que j'avais de la fraîcheur mentale. Physiquement, j'étais frais, je m'étais bien préparé. Je savais que je pouvais tenir voilà, 2 tournois, 3 tournois de suite en enchaînant les matchs. Et puis, voilà, j'étais bien, j'étais avec mes coachs en tournant, on se marrait bien, on s'entraînait bien, tout se passait bien, quoi. C'est ce que j'avais un peu perdu avant. Quoi.
À quel moment, du coup, tu sens que tu es aux portes du top 100 et que tu es en train de faire un truc, on va dire, un peu le Graal, finalement, de tout genre de tennis, qui est d'accéder à ces 100 putains de joueurs mondiaux et t'y installer, ouais. Quoi.
Déjà, ça a été quand même rapide et en même temps long, au final, parce que voilà, je suis rentré après l'US dernier dans les 100. J'ai fait bien 1 an et demi, ouais, entre 200 et 100 avant. J'avais quand même, après avoir fait qualifier vainqueur à Lille, je sentais que je jouais très bien tout le temps. J'avais fait finale à Bordeaux. Roland, je perds en 5-7. Je dois jamais perdre le match. Je mène 2-7-0. Je suis pas loin de le finir et j'ai des crampes. Je stresse. Voilà, toujours dur pour un Français de jouer à Roland. Surtout, moi qui n'étais pas très bon physiquement, voilà, depuis tout petit où j'étais potelé et tout ça. J'avais beaucoup de problèmes de crampes. Donc, je sentais que j'étais pas si loin. Derrière, je me qualifie à Wim. Je joue Tsitsipas. Je fais 4-7. Mais voilà, je me sens pas du tout ridicule sur le match, je suis pas loin de l'amener au 5e, j'ai des balles de break au 4e, donc là je me dis bon, il y a quelque chose, je suis pas très loin. Voilà, après la deuxième partie de saison était un peu plus dure, j'ai gagné moins de matchs, mais bon, je jouais toujours bien, je me suis bien entraîné l'hiver d'après et tout de suite ça a payé. Et là je me suis dit bon, bah il y a quand même voilà, il y a de quoi faire, je m'en rapproche petit à petit, je perdais moins sur des joueurs un peu en dehors des 200, je perdais plus beaucoup, donc là je me disais quand même j'ai mon niveau moyen qui est monté, donc c'est quand même ça qui est important aussi pour arriver à monter dans les 100, faut arriver à être régulier tout au long de l'année. Et donc on va dire ouais, à partir du moment où j'ai passé mon premier tour à Roland, où ça a été déjà voilà, gagner son premier match dans un tableau de Grand Chelem, ça faisait du bien parce que voilà, ça faisait plusieurs fois que je perdais et je me disais putain, je vais pas y arriver, quoi. Même en menant 2-7-0, 5-5, balle de break au 3e, j'y arrive pas. Et donc là, ça m'a fait du bien. Et derrière, je fais un bon match sur Kachanov. Bon, je perds, mais voilà, pareil, il y a eu un match. Et là, je me disais, bon, bah, j'ai le niveau. Voilà, si je continue à m'accrocher, à bien m'entraîner, je vais y arriver dans les 100. Et plus loin, voilà, j'espère aller plus loin. Maintenant, c'est pas un aboutissement d'être dans les 100, donc faut continuer à bosser. Et on le voit aujourd'hui que voilà, la plupart des joueurs peuvent battre les autres, peut-être à part ouais, les Djoko, Roger, Rafa. Ça devient un autre truc, mais voilà, les joueurs sont assez proches quand même les uns des autres, quoi. Donc on va dire à partir de ce moment-là, je me suis dit ouais, je vais y arriver, quoi.
Physiquement, t'as changé un truc dans ta prépa pour être plus affûté, plus compétitif.
On va dire que voilà, l'hiver dernier, il y a 2 hivers, j'ai essayé de beaucoup courir le matin à jeun, ce que j'aime pas forcément faire, pas forcément longtemps, mais ça m'a fait du bien, voilà, ça m'oxygénait. Donc j'ai essayé de le faire assez régulièrement, tous les deux jours ou 3 jours. Alors là, je disais à Marco qui habitait à côté de chez moi, je lui disais bon, bah, de toute façon, j'y arrive pas tout seul, donc faut que tu viennes avec moi. Donc le pauvre, il a dû scoltiner quelques footings alors qu'il n'avait pas envie. Mais comme il préparait son marathon, ça lui a fait du bien. Donc voilà, il y a eu surtout ça. Et voilà, j'ai suivi le conseil de mes coachs, de mes préparateurs physiques. Et on va pas dire que je les suivais aveuglément, mais presque, voilà, je leur faisais confiance. Et j'ai fait beaucoup travailler sur les muscles du bas. Et j'ai beaucoup couru, fait du cardio et du physique sur le terrain aussi. Et voilà, j'ai mis plein de petites choses en place qui ont fait que voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis aussi, je me suis détendu sur les matchs, quoi. Ça a beaucoup changé parce qu'en 5-7, t'as quand même besoin d'être un peu détendu parce que sinon c'est trop long, quoi. Tu peux pas tenir à tout un match méga tendu.
Mentalement, tu fais appel à un préparateur mental ou
pas? Ouais, depuis on va dire mars dernier, je bosse avec un préparateur mental qui n'était pas dans le sport à la base. Je joue son premier sportif, mais voilà, ça me fait beaucoup de bien. On parle de plein de choses. Voilà, on essaie de trouver des routines. On a un peu énoncé au tout début. Il m'a fait découvrir un peu les émotions pour pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais sur le terrain, en dehors du terrain. Et voilà, on a beaucoup discuté sur des choses que je discutais avec mes coachs. Voilà, donc en quelque sorte, ça m'a un peu libéré et ça me fait beaucoup de bien.
Et s'il vient pas du milieu du tennis, vous vous êtes rencontré comment?
C'est Thierry Assian qui me l'a présenté. Voilà, il m'a donné plusieurs noms et je l'ai rencontré. On a déjeuné ensemble et ça a duré 2 heures, je pense. On n'a pas eu le temps passer. On a très vite raccroché et c'est pour ça, j'ai dit banco, on va essayer. Et voilà, depuis on bosse ensemble, depuis... c'est ça, mars, je me souviens, c'est à peu près ça. Après le tournoi de Marseille, c'est là où on a commencé à en discuter, à dire que ce serait pas mal d'intégrer ça au staff. Et voilà, depuis ça, c'est fait.
Et du coup, c'est l'approche de Thierry Assione qui est... Selon lui, ça ne serait pas d'un préparateur mental ou il laisse quand même libre cours aux joueurs, tu vois?
Il laisse libre cours aux joueurs. On avait discuté, je me souviens, après mon match parce que j'avais perdu sur Stakowski au deuxième tour, ce qui était à l'époque pour faire quart. On était tous les deux lucky loser. C'est plutôt un bon tirage et j'avais pas fait un bon match du tout. J'étais un peu timoré. Voilà, et ça m'arrivait assez fréquemment. Et en sortant du match dans les vestiaires, on en avait parlé un peu. On avait fait le débrief et Joe était là, il m'avait dit, mais tu sais, Joe Tsongue, il m'avait dit, tu sais, moi j'étais très réfractaire à ça au début, et finalement j'ai commencé à bosser avec un mec, ça m'a fait beaucoup de bien, tu devrais essayer, parce que moi aussi j'étais un peu réfractaire à ça, et j'avais déjà bossé à la Fédé avec un préparateur mental à un moment, et j'avais un peu laissé tomber, et depuis, voilà, on a discuté, Joe, on en a parlé ensemble, et du coup j'ai dit, je vais essayer, de toute façon, à ce niveau-là, il serait que des détails qui font la différence, donc pourquoi pas. Et voilà, et du coup, Thierry, il s'était mis sur le marché en essayant de trouver quelqu'un, quoi, pour moi, et ça s'est fait comme ça.
Et du coup, ouais, tu te sens plus apaisé sur le court?
Oui, je me sens mieux, voilà. Surtout en Grand Chelem, je sens la différence. Chaque fois que j'ai, avant de rentrer sur un match en Grand Chelem, je me disais, est-ce que je vais tenir les 5-7? La dernière fois, j'ai pas tenu, voilà. Et maintenant, le fait d'avoir bossé là-dessus, j'y pense plus du tout. Alors oui, je peux avoir des coups de fatigue en Grand Chelem comme tous les joueurs, mais je pense plus du tout au fait que, est-ce que je vais cramper? J'arrive sur le match, je suis à fond et maintenant, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. J'espère que ça va continuer.
Tu as eu 3 wildcards à Roland en 3 ans, il me semble. Ouais. Ce qui fait quand même la bagatelle de 150 000 euros. C'est un beau cadeau de la Fédé, quelque part. Ouais. Comment ça se fait que tu aies été dans la shortlist des 3 fois pour avoir la wildcard?
On va dire, alors les gens ils pensent que c'est des gens qui sont pistonnés, qui ont les wildcards, etc. Mais si on regarde quand même, c'est toujours ceux qui ont eu les meilleurs résultats, mais qui n'ont pas de classement pour les jouer. À chaque fois que j'ai eu wildcard, j'ai toujours bien joué juste avant mes 2 dernières wildcards. Donc la dernière cette année, j'avais gagné la race qu'ils avaient mis en place. J'avais gagné Quimper, Lille, j'avais fait Carin Saint-Brieuc, Carin Nouméa, finale à Bordeaux. Donc il n'y avait pas un autre joueur français qui avait pris plus de points que moi en dehors des 100. Donc c'était logique que je l'ai, on va dire. L'année d'avant, pareil, j'étais revenu. J'avais gagné les 2 futurs, j'avais gagné un challenger, j'avais fait finale à Bordeaux, j'avais fait des quarts. C'était pareil, il n'y avait pas d'autres joueurs français qui avaient gagné un challenger, fait une finale et gagné deux tournois futurs. Et en plus, à chaque fois, c'était en France. Et on sait qu'en France, les tournois, ils sont plus relevés, ils sont assez bien dotés, les conditions sont très bonnes, donc les joueurs adorent venir les jouer. Donc voilà, ces 2 wildcards-là, on va dire que je les ai volés à personne. Il y en a quand même 6 des wildcards pour les Français. Faut bien les donner à des joueurs. Et alors, la première année, quand j'ai joué Goffin, je me souviens plus tellement ce que j'avais fait, mais j'étais, je crois, 180. J'avais 20 ans ou 21 ans, j'étais entraîné à la Fédé, donc c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient, il n'y avait pas de joueurs plus jeunes que moi qui étaient mieux classés. Je pense qu'il y avait Lucas qui était tableau déjà, il devait y avoir Mathias qui était mieux classé que moi qui a eu wildcard aussi, et sinon plus jeune, il y avait Quentin Alice qui avait eu wildcard et c'est tout, on va dire. Donc on va dire à chaque fois mes wildcards dans le tableau, je les ai eu, c'était, on va dire, en termes de résultats, c'était assez normal par rapport aux autres joueurs, quoi. Après c'est pas de ma faute si les joueurs derrière ils jouent pas ils ont pas les mêmes résultats, donc alors il y a pu avoir peut-être de temps en temps une ou deux wildcards parmi les 6 qui étaient un peu plus choquantes que les autres, mais pour moi c'est les gens aiment bien dire que il y a les mecs qui sont pistonnés, mais je suis pas d'accord avec ça. Ça varie, et après il y a pas toujours des renouvellements dans les joueurs, donc forcément il y a des mêmes joueurs qui ont les wildcards, c'est comme ça. Alors il y en a qui disent qu'il faudrait ouvrir et donner les wildcards à des étrangers, ils peuvent penser ça, mais ils savent pas derrière ce que font les joueurs français aussi. C'est dur, c'est pas le niveau en France, il est très relevé. C'est pas évident non plus pour un joueur français, même s'il y a Roland. Donc moi, je trouve ça normal d'aider les joueurs de ton pays et dans les autres pays en général. On voit très rarement, tu vas au Grand Prix de Budapest à l'ATP. Ils vont pas forcément donner une wildcard, ils vont pas donner une wildcard à un Français ou à un Espagnol, quoi. Donc moi je pense qu'il faut aider les pays, les joueurs de son pays, donc voilà, on va dire ça comme ça.
Il me semble qu'il y avait un partenariat à un moment donné avec la Fédé australienne qui invitait des joueurs à l'Australian Open et vice-versa à Roland-Garros. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Oui, en France, on donne une wildcard à l'US Open. L'US Open donne une wildcard à la France. Et pareil en Australie. Voilà, il y a un partenariat avec ces deux grands chelems où ils échangent une wildcard à chaque fois. Pour le tableau, alors pour les qualifs, c'est déjà arrivé, je ne sais plus, peut-être qu'il y a entre l'US et la France, je ne saurais pas dire, mais je sais qu'il y a déjà eu pour les qualifs, je ne sais pas s'il y en a encore.
Et pas Wimbledon?
Non, Wimbledon, déjà, ce n'est pas une fédé, donc c'est un tournoi, c'est un club privé, donc c'est un peu différent, ça fonctionne un peu différemment, mais Wimbledon, eux, déjà, il y a beaucoup moins de joueurs anglais qui ont classement pour pouvoir avoir les wildcards. Donc, pour eux, on va dire que c'est un peu plus facile de les donner. Et ensuite, après, ils donnent souvent soit des joueurs prestigieux qui n'ont plus le classement, soit ils donnent aux premiers joueurs qui sont en dehors du tableau.
Ok. Quel est ton coup fort aujourd'hui, Greg?
Bah, je resterai sur le revers.
Du coup, tu dois le plus faire améliorer?
Bah, y en a beaucoup. Hein. La volée, je ne volais pas bien du tout. Et on va dire, mes défenses de coup droit, ce n'est pas encore génial.
Le coup que tu préfères faire, le moment où tu prends le plus de kiff, quoi.
Une attaque de revers, on va dire, long de ligne ou un petit peu court croisé, voilà, qui arrive entre la ligne du carré et, on va dire, un mètre plus loin.
T'en sors aujourd'hui en match des revers où tu lâches vraiment tout, tu lâches les chevaux complètement?
Ouais, ça arrive. Parfois, déjà, quand je suis fatigué à la fin d'un point, un point long, voilà, parfois tu te lâches. Ouais, ça m'arrive. Alors, c'est sûr que j'en mets moins qu'avant parce que bah, les mecs défendent beaucoup mieux. C'est un peu plus dur de le faire. Mais oui, je continue d'en lâcher. Je continuerai toujours d'en lâcher, quoi. C'est un peu mon identité, donc je ne vais pas me priver.
C'est bon, ça. Le coup que tu as le plus fait évoluer jusqu'à maintenant?
Le coup droit, quand même. Même si on ne dirait pas techniquement, moi, j'ai l'impression que j'ai changé de coup droit par rapport à... par rapport à mes années en junior, par exemple.
Et c'est quoi? C'est des centaines de sauts de balle, des corrections au fur et à mesure, comment...
Oui, c'est des centaines d'heures, on va dire, à passer à taper des balles, à faire des gammes, à faire du panier, pour des infimes changements, quoi, des trucs qui se voient quasiment pas à l'œil nu, même si nous, en tant que joueurs, on a toujours l'impression que c'est un nouveau geste qu'on fait, quoi. Mais c'est démarrer le geste plus tôt, mettre le bras un peu plus, voilà, tenir le bras un peu plus gauche un peu plus longtemps pour être mieux équilibré. C'est des tout petits détails, mais au final, ça fait une grande différence.
La période où tu t'es entraîné le plus dur dans ta vie?
Les deux dernières périodes foncières, ça a été dur. On a fait des stages à chaque fois qui étaient très bien. On était plusieurs, donc on pouvait se motiver. Ça durait une semaine à 10 jours. On partait, donc on n'avait que ça à faire. On restait pas sur place à Paris, donc on a fait une fois à Montpellier, une fois cette année à Marrakech, donc là on s'est entraîné bien dur.
Et avec qui à ce moment-là?
Alors cette année, il y avait Mathias Bourg, Tristan Lamazine, il y avait Joe Tsunga, Richard Gasquet, Valentin Royer, un petit jeune de l'académie aussi, qui sort des juniors. L'année d'avant, c'était à peu près pareil, sauf qu'il n'y avait pas Richard.
Ton rêve d'enfant en tant que joueur de tennis?
Mon rêve, c'est de gagner un grand chelem, alors gagner Roland ou Wimbledon, quoi. Roland, parce que c'est à la maison quand même, et Wimbledon, parce que je trouve que c'est le plus beau.
Un exo qui te fait vraiment vomir à l'entraînement?
Les gammes. Je supporte pas les gammes. Je fais rire mes coachs parce qu'ils en peuvent plus de moi, mais je déteste faire des gammes. Ça me saoule, je trouve ça trop rébarbatif.
Il t'adapte un petit peu le format de l'entraînement, ou si c'est un passage obligatoire?
Bah, on va dire qu'en début de période foncière, c'est un peu obligatoire. Mais je déteste ça, mais je sais que ça me fait du bien. Donc parfois, c'est même moi qui en demande, mais c'est quand même rare. Donc ouais, non, c'est un peu passage obligé, mais voilà, ils adaptent. Ça, plus les semaines d'entraînement avancent, plus les gammes sont courtes.
Donc les gammes, Diago coup droit, Diago revers.
Diago coup droit, Diago revers, pas pour moi ça.
Ta pire galère sur un tournoi?
Pire galère, on va dire que c'était en futur. J'étais parti faire deux futurs au Zimbabwe, avant d'enchaîner un challenger à La Réunion. J'ai pas fait beaucoup de pays exotiques, mais voilà, ça en fait partie. On partait, on a eu un problème sur le premier vol pour faire Paris-Amsterdam. J'étais avec Mathieu Rodriguez et un autre joueur. Et le vol a pas pu décoller, donc on a pris du retard. On est arrivé avec une heure ou deux de retard à Amsterdam, donc on a loupé le vol d'après, qui allait à Harare directement. Donc on a dû prendre un autre vol qui allait au Kenya, qui arrivait genre à 20h au Kenya, et on avait un autre vol là-bas à 6 ou 7h du mat. Du coup, on a dû dormir dans l'aéroport parce que, alors, on avait un hôtel. La compagnie avait mis un hôtel en place pour qu'on puisse sortir à une demi-heure de l'aéroport. Donc, au début, on voulait y aller. Le joueur et moi, on sort, voilà, en montrant les passeports, en disant qu'on était en transit, blablabla, qu'on est en faisant toutes les démarches. Sauf que, bah, le passeport de Mathieu Rodriguez, il était un peu abîmé. Ils n'ont pas accepté de le faire sortir de l'aéroport. Donc, nous, on avait, genre, 19 ans. On s'est dit, bon, on sort pas tous les deux, tout seul, les deux joueurs qu'on était, pour aller à minuit dans un hôtel au milieu perdu au Kenya. Donc, on est resté à l'aéroport avec Mathieu. On a dormi à l'aéroport. C'était un peu l'enfer. Tout était fermé. On n'avait rien pour boire. C'était une bonne galère, quoi. Mais on est quand même arrivé au tournoi le lendemain. Et on s'est demandé si son passeport allait passer aussi à l'aéroport à Harare, mais on n'a eu aucun problème.
Et t'as fait quoi sur ton tournoi ?
C'était l'époque où je faisais beaucoup de quarts de finale de suite en futur, donc je crois que j'ai fait quart. J'ai dû gagner le double sur une semaine. Et après, j'avais fait mon premier, à La Réunion, j'avais fait mon premier 40 challenger. Parce que j'avais fait deux au Zimbabwe et un à La Réunion. C'était une tournée sympa, je m'étais bien éclaté. C'était bien marré.
Ton plus gros pétage de plomb sur un cours ?
Je crois. Alors j'ai le souvenir en Tunisie. C'était pareil, c'était cette période-là, c'était après le tournoi à La Réunion. Je faisais que des quarts chaque semaine. Et je jouais mon pote Canina, Julien Canina, en quart du tournoi. Et moi, bon, j'avais dû prendre, j'étais mené genre 6-3, 3-0, je pense. J'en avais plein le cul. Je pense que j'avais fait enchaîner, je sais pas, 7-8 quarts de suite. Et à un moment, je pète un plomb en plein point. Je fais un revers, mais je prends le revers de toutes mes forces. Je fais baseball et je le fous, voilà, en dehors du court, dans l'hôtel d'à côté, en plein point, quoi. Donc, oui, bien sûr, je perds le point. je pouvais pas prendre d'avertissement parce que je disais que j'avais boisé, quoi. Ouais, on va dire ça. Je suis pas trop du style à péter des plombs. Ça peut m'arriver de casser une raquette dans l'année à l'entraînement, mais en match, ça m'arrive pas.
T'as déjà pris des amendes sur les tournois ?
Non, je crois que j'ai jamais pris d'amende. Bon. J'ai peut-être dû avoir une fois, on m'a dit, on me l'a retiré parce que voilà, tous les joueurs arbitres, on se connaît tous, donc ils savent que ça m'arrive jamais. Donc ils m'ont dit, bon, pour cette fois, on te la retire parce qu'on sait que voilà, c'est pas toi. J'ai dit merci, mais ouais, non, je crois que j'ai jamais pris d'amende.
Bon geste. Quelles sont tes superstitions en tant que joueur ?
J'en ai plus. Alors avant, je pouvais en avoir où je me disais, bon, je vais manger toujours même resto parce que ça fonctionne. Mais voilà, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis que ça sert à rien en fait. Parce que si un jour je peux pas reproduire ce que je pense qu'il faut reproduire, ça va être compliqué d'arriver sur le terrain. Donc non, j'ai gommé toutes les superstitions que j'avais. J'ai jamais été vraiment trop là-dedans. Mais ouais, j'ai pu en avoir comme tout le monde. On va me dire, je mange dans tel resto parce que j'ai gagné hier et je prends tel plat, quoi, mais ça n'a jamais allé plus loin.
Ton joueur et ta joueuse préférée actuelle ?
Je vais dire chez les filles, Barty. Ashley Barty, j'aime beaucoup l'avoir joué. Et depuis les juniors, je me souviens, Aloïs Boss, on allait la voir en junior en Malaisie, on allait voir quasiment tous ses matchs sur un gradin, on adorait. Et Roger, c'est pas très. C'est assez commun, mais ouais, Roger.
Et pourquoi Barty et Roger du coup ?
Ben, Roger, c'est la classe, hein. C'est beau avoir joué. Tout le monde a envie de. Tout le monde aimerait reproduire ce qu'il fait, mais c'est impossible. Voilà, ça paraît toujours très facile, mais ouais, c'est beau à avoir joué. On va dire que pour définir en un mot, c'est la classe. Et puis Barty, j'adore, elle varie bien. On dirait limite un prof, on voit jouer un prof qui fait un peu du droit de gauche à ses élèves. Une petite amortie, un petit chip, un lob, voilà. Ça varie énormément et on ne voit pas beaucoup ça dans le tennis féminin, donc j'aime beaucoup l'avoir joué.
Ancien et ancienne, tu disais Polo et Safine,
ouais. C'est ça ? Ouais, exactement.
Et Safine, il dégageait quoi ?
Il avait un certain charisme, c'était un beau gosse, il déroulait, il frappait fort, il était un peu dans le je m'en foutisme, quoi. Il s'en foutait de ce que les gens pensaient, donc c'était surtout pour ça, il mettait des lattes, il avait un beau revers, et moi quand j'étais petit, je mettais que des lattes, j'en avais rien à foutre. je tenais pas l'échange et donc j'adorais le voir jouer. Et puis Polo, je pense que c'est un des premiers matchs que j'ai vu en vrai, donc pour ça aussi. Et j'aimais son jeu, il avait aussi un beau revers, moi j'adorais faire des revers, donc ça a été surtout pour ça.
Le joueur le plus drôle sur le circuit ?
Moi, celui qui me fait le plus rire, c'est Mathias Bourg. Il y a Adrian Manarino, il est très drôle. Les gens le connaissent pas trop, il est assez timide, mais quand on le connaît bien, il est très très drôle.
Une des plus grosses conneries que Bourg t'ait fait, c'est quoi ?
Voilà, il aime bien un peu rigoler, se foutre un peu de la gueule du monde, donc ça arrivait qu'en boîte, il fallut un peu faire attention à lui, quoi, on va dire. Je vais pas aller plus dans les détails, mais il peut faire 2-3 conneries quand même.
Et la joueuse qui te fait le plus rire ?
Pauline Parmentier. Pauline okay. Parmentier, bien sûr.
Le joueur le plus fou ?
Kyrgios ou Benoît Paire. On regarde tous leurs matchs parce qu'on se dit qu'il va se passer un truc, donc voilà, des gens n'aiment pas ça, mais en même temps, ils font que les gens regardent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En match, quoi, non, même s'ils sont pas top 5, donc voilà, pour moi, c'est eux deux. On les met au même niveau, quoi.
Et la joueuse la plus folle, il y en a une ou quoi?
Je sais pas, je regarde pas énormément de tennis féminin quand même, malgré tout, donc je saurais pas dire. Et puis, il n'y a pas beaucoup de tournois mix. Donc, je sais pas, je donne ma langue au chat.
Si tu devais partir en vacances avec 2-3 joueurs et joueuses, tu choisirais lesquels?
Pauline, Lucas, Mathias et Adrien. Jérémy est très drôle aussi.
T'es en confinement là justement dans une maison avec Lucas. Comment ça se passe? Comment vous organisez vos journées?
On a du mal à se lever. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit 11h. Au final, on a mis le yoga à 10h. Donc voilà, on s'est levé, mais d'habitude, voilà, on se lève pas très tôt. On essaie de faire tous les jours du sport, au moins une fois par jour. On essaie de varier, on fait du crossfit, un peu de cardio, des intermittents, un peu de muscu, on a un TRX, on a 2-3 haltères, on a un vélo d'appart, donc on essaie un peu de varier, on a un terrain de tennis aussi ici, donc on tape un peu de temps en temps, mais bon, on tape pas énormément parce que bah, on n'a pas de corde, on sait pas corder, donc on n'a pas de machine non plus, donc faut pas trop casser, et puis on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre vraiment l'entraînement, donc voilà, on privilégie surtout, on fait plutôt du physique, mais sinon on fait des jeux de société, on joue beaucoup à FIFA, on fait la cuisine beaucoup aussi, et voilà, et on fait des siestes, on lit un peu, on passe le temps comme on peut, quoi.
Vous êtes dans quel coin là?
On est vers Grasse.
Bah, c'est plutôt cool pour un joueur de tennis qui est tout le temps sur le circuit, qui arrête jamais finalement de prendre un peu de temps pour soi.
Ouais, les 15 premiers jours, on se dit voilà, c'est super cool, ça fait du bien. Là, je te casse pas que les journées sont de plus en plus longues et que voilà, les voyages nous manquent quand même parce qu'on a quand même beaucoup la bougeotte. On n'a pas l'habitude de rester chez nous souvent, donc voilà. Mais voilà, il faut faire avec, hein. Il faut rester chez soi. Donc voilà, ça fait plus de 15 jours maintenant qu'on est sorti. Lucas est sorti 2 fois pour faire les courses, une fois. Donc voilà, c'est les 3 seules sorties qu'on a fait depuis le début du confinement, même avant, parce qu'on est arrivé un peu juste avant. Donc voilà.
Lequel de vous deux achète le plus de merde quand il va faire les courses?
Bah, comme c'est lui qui est sorti 2 fois, on va dire que c'est lui. Mais c'est sur demande, on fait une liste et voilà. Et puis c'est Pâques, donc fallait forcément acheter des chocolats. Mais ça fait du bien. On essaie de manger diététique, manger beaucoup de légumes et tout. Mais bon, pour les desserts, on se fait des petits kiffs. On se fait des gâteaux de temps en temps parce qu'il faut quand même... tenir moralement, donc voilà, c'est important de se faire du plaisir.
Si tu devais isoler ta plus belle rencontre sur le circuit, ça serait qui?
C'est une très bonne question.
Coach, joueur?
Je pourrais dire ma copine, elle est kiné, donc maintenant elle fait un peu mes soins, mais... bon, si c'est pour isoler vraiment sur le circuit, je dirais... c'est dur d'isoler la plus belle, quoi. Allez, on va dire Mathieu Rodriguez, parce que c'est un peu avec lui j'étais monté 180 à l'époque, enfin j'avais gagné mes... J'avais fait mes premiers armes en gros en challenger et tout avec lui. Après, j'étais reparti à Fédé et je suis revenu pour m'entraîner avec lui. Et c'est lui aussi qui m'a remis dans le droit chemin. Donc, il y est pour beaucoup où j'en suis maintenant. Donc, on va dire lui.
Et donc, ta copine, aujourd'hui, fait partie de ta structure sur le circuit?
Non, elle est kiné. Elle a un cabinet sur Paris. Mais de temps en temps, elle vient en tournoi avec moi. Et du coup, elle me fait des soins. J'essaie le soir, quand on est à la maison, de pas trop lui en demander parce qu'elle a fait déjà sa journée de travail. Donc c'est comme si elle me demandait le soir après ma journée d'entraînement d'aller la faire taper. Donc je lui demande rarement, mais oui, en tournoi, elle me fait les soins et tout. Mais bon, elle bosse de son côté, donc elle vient pas souvent, quoi. Elle vient, voilà, elle fait New York, elle a fait Wimbledon et après là, elle était venue à Indian Wells, mais bon, manque de peau, j'ai joué que le challenger. Mais voilà, elle essaie de venir de temps en temps avec moi.
T'as été appelé en Coupe Davis?
J'ai fait sparring pour la dernière vraie édition de la Coupe Davis. Là, t'es appelé en tant que joueur, mais en tant que sparring.
Et en tant que sparring, est-ce qu'il y a un bizutage?
Ouais. Il y a d'abord le discours avec la chanson pendant le repas officiel. Donc, quand on est tous en costard devant les deux équipes. En plus, c'était la finale, donc il y a les présidents... l'ITF et tout ça. Donc, discours, chanson, et après, il y a un moment dans la semaine où les joueurs retournent ta chambre, quoi. Donc, moi, ils ont tout fait le même soir. Voilà, comme ça, c'était réglé. J'ai fait discours, chanson, et le soir en rentrant, kiné, il m'a dit viens, on n'a pas fait tes soins aujourd'hui parce qu'il fallait que je révise pour ma chanson. Et pendant que je faisais mes soins, je m'étais pas rendu compte, mais les autres, ils étaient partis me retourner la chambre, quoi.
T'as chanté quoi ?
J'ai chanté Il jouait du piano debout de France Gall, que j'avais appris à l'école, donc voilà, j'avais quelques bases.
Ok. Ton survêt de l'équipe de France, t'as ressenti quoi quand t'avais ton nom dessus et t'en fais quoi le reste du temps ?
J'étais très fier. Après, j'ai pas le numéro sur le côté qui signifie qu'on est joueur vraiment sélectionné. Donc voilà, peut-être que ça sera un objectif pour plus tard, mais ouais, j'étais très fier, très content. La Coupe Davis, c'est le premier truc que j'avais regardé, même avant Roland. Donc voilà, très, très heureux. J'ai beaucoup appris de ces 15 jours-là, parce qu'on avait fait 15 jours quand même. Et malheureusement, le survêt, je ne l'ai pas parce qu'il faut le rendre à chaque fois à la fin. Et jusqu'à là, ils ont changé le survêt, donc je crois qu'on peut le récupérer maintenant. Mais si je le demande, je pourrais le récupérer, mais je ne l'ai pas chez moi pour le moment. Je sais qu'il est au CNE, c'est Guillaume Héroux, celui qui gère tout ça, qui le garde bien au chaud.
Et le numéro, c'est ta position dans l'équipe ou c'est quoi ?
C'est le nombre de joueurs qui ont été sélectionnés. Donc là, je ne sais plus, ça doit être à 89, 90, quelque chose comme ça. Donc admettons, si je suis le 91e joueur français à jouer sous le drapeau français pour la Coupe Davis, bah, j'aurai le numéro 91 par exemple.
Ok, énorme.
Une petite symbolique.
Maintenant que tu es top 100, est-ce que tu es 4 fois plus sollicité qu'avant ou comment se passe ton quotidien de joueur de tennis professionnel ?
Je dirais pas 4 fois plus parce que voilà, je suis encore à l'entrée des 100. Voilà, c'est un peu nouveau, mais oui, c'est sûr que t'es pas sollicité du tout quand tu fais des futurs. En challenger, bah, tu es un peu sollicité pendant les tournois que tu fais quand c'est en France. Tu es un peu les journalistes du coin. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait quelques sollicitations en dehors, mais c'est très rare. Et là, c'est sûr qu'il y en a, un peu plus, encore plus depuis le confinement où tout le monde demande un peu comment on gère ça, quoi. Mais il y en a un petit peu plus quand même.
Est-ce que tu te souviens le jour où tu as été injouable dans un tournoi ?
Ça m'est arrivé parce que j'ai plutôt un jeu à risque, donc quand tout rentre, c'est très dur de me jouer. Mais en finale à Lille, la première fois que je gagne Lille, je mène 6-5, 4-0, je crois, et là je ratais vraiment rien. Je jouais comme que, même lui il me regardait, il était mort de rire. Donc au final, ça fait 6-1, 6-3 peut-être. Je ratais rien, quoi, on va dire.
C'est bon ça. Ta pire défaite ?
Là où j'ai le moins bien joué, on va dire, c'était le pire. Quand j'étais au Portugal juste avant d'arrêter, je faisais limite chip coup droit, chip revers. J'arrivais plus à mettre une balle dedans, j'avais l'impression que je jouais même plus seconde série. Donc en futur, c'est compliqué. après ma pire défaite, il n'y a pas vraiment de voilà, en termes de classement, il n'y en a pas qui me viennent à l'idée comme ça. Celle qui m'a fait le plus mal, c'est celle contre Albano que j'adore. À Wim, au deuxième tour de Wim, j'ai le break au troisième, donc contre Albano qui sert très bien sur gazon, c'est important d'avoir le break. Je me fais débreaker et je perds 11-9, je crois, avec 3 balles de match et j'arrivais plus à jouer du fond de court. Il y avait tellement eu peu d'échanges que je sais que le gazon c'est encore plus particulier. J'arrivais plus à jouer. Il me mettait la balle dedans, je savais plus quoi en faire. Donc voilà, je suis désolé Albano, mais c'était contre toi. Derrière, il s'est qualifié et il perd au premier tour, hein, genre 16-14 en 5-7, quoi. Donc, dur pour lui aussi, je pense qu'il s'en souvient de ce Wimbledon.
Contre qui il perd ?
Un mec qui s'était qualifié, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était un Australien qui joue plus, je crois, maintenant, mais qui, pareil, qui servait très très bien. Qui servait à 220 tout le temps, quoi.
Ta bête noire ?
Ma bête noire, dernièrement, c'est Lucas. Je l'ai joué 3 fois, je crois, dernièrement, et j'ai perdu à chaque fois.
Et toi, le joueur que tu as le plus martyrisé ?
J'aime beaucoup Yannick Madden, un Allemand. J'ai dû jouer 3 ou 4 fois ces 2 ou 3 dernières années et à chaque fois j'ai gagné.
Et juste pour revenir sur Lucas, tu penses que tu le respectes encore trop ou tu arrives à faire vraiment la part des choses ?
Au début, ouais, sûrement. Quand j'ai joué à Bordeaux, je l'ai joué, j'ai pris 2 branlées, je crois, de suite. Ah oui, mais un peu moins. Bon, le premier set, je prends 6-1, je rentre pas bien du tout dedans, mais après c'était un peu plus accroché, donc ouais. Mais voilà, maintenant un peu moins. Maintenant c'est bon, c'est reparti. Hein. Mon objectif, c'est de le battre.
Le joueur le plus chiant à jouer en termes de comportement ?
Ben Chetrit est très dur à jouer parce qu'il parle beaucoup. Il impose un faux rythme, il joue très bien, il sert très bien, il frappe très fort, il a une bonne main, il voit très bien, donc il est assez dur à jouer. Mais voilà, il parle beaucoup pendant les matchs, donc c'est un peu difficile. Voilà, quand t'es en match, c'est chiant.
Est-ce que tu as toujours une boule un peu au ventre avant de rentrer sur le court, un peu en mode pression, de te dire putain, le mec joue grave?
Je l'avais souvent. Maintenant, non, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu. Je peux avoir la boule en ventre, ouais, si tu rentres sur un central où tu sais qu'il va y avoir du monde. Et oui, c'est un bon joueur, tu veux quand même pas. Tu te dis, bon, tu peux te faire. Ça arrive, hein, tu peux te faire déchirer, donc c'est un peu chiant devant plein de personnes. Et voilà, c'est un peu. Ça peut être humiliant, mais je l'ai quasiment pu. Voilà, dernièrement, j'étais rentré donc, contre Dimitrov, qui est même s'il est plus que 23, il a quand même fait. Voilà, il a gagné le Masters, il a été top 5, donc demi en Grand Chelem. J'aurais pu me dire ça, je me suis pas dit ça du tout. Voilà, il y avait du monde. Donc, non, je pense que cette étape-là, je l'ai un peu passée. Alors, peut-être que ça reviendra si je joue sur le central contre Rafa, ou voilà, sur l'Anglaine, ou sur un autre gros cours comme ça, sur une grosse tête d'affiche. Oui, forcément, ça, t'as la boule en ventre quand tu rentres, mais une fois que le match est lancé, voilà, ça disparaît petit à petit.
Yes. Ta plus belle remontada?
C'est à Wim. Je t'ai mené 2-7-0. Voilà, on peut le mettre parmi les matchs où je jouais très très mal. Je mettais pas une balle dedans et j'ai réussi à retourner la situation et gagner en 5-7.
Okay.
C'était contre Liam Brody, un mec de mon âge, voilà, qui était un peu redescendu au classement, mais qui a été pareil, 150, 160, et qui est gaucher, qui joue beaucoup sur gazon, un anglais, donc c'est toujours chiant de jouer les anglais aussi là-bas, donc voilà, ça a très mal débuté et puis ça a bien terminé.
Tout à l'heure, tu parlais des footings que tu faisais le matin à Jeun. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un truc, ta manière à toi d'en faire un peu plus à l'entraînement que les autres, où tu te dis ça, il n'y a que moi qui le fais?
Non, je suis pas trop là-dedans. Je suis plus plus dans la qualité que dans la quantité, moi. On va dire que je m'entraîne peut-être un peu moins tennistiquement que d'autres. Voilà, j'essaie de faire plus de la qualité parce que je sais que quand je fais de la quantité, voilà, au bout de la si je joue bien sûr dans l'hiver, ça m'arrive de jouer 3-4 heures. Mais je sais que voilà, si je fais ça tout le temps, je sais qu'au bout de 3h30, ça sera beaucoup moins bien. Donc voilà, j'essaie de faire plus de qualité que de quantité. Après, je fais pas mal de physique en gym. J'ai pas le truc où je me dis ça, je le fais plus que les autres, quoi. Allez, on va dire que j'essaie de mettre plus de qualité que les autres. On va dire que ça va être ça.
Ok. Le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné?
De me laisser du temps et d'être content de ce que je fais. Et c'était valable même quand je repartais en futur. Voilà, d'être content de regagner un futur, même si j'avais été 180. Voilà, d'être content en gros de moi, de ce que je fais, de ce que je produis. Si c'est dans l'optique, si c'est dans ce que je voulais faire, voilà, d'essayer en gros de ne pas me focaliser sur les résultats, mais sur comment je voulais jouer et comment j'avais envie de jouer. Et puis ensuite d'être content quand les résultats arrivaient et pas me dire c'est pas assez bien parce que machin. À mon âge, il est déjà classé tant, il fait déjà ça. Voilà, de me laisser du temps et d'être content, tout simplement, de jouer au tennis.
Et toi, si tu devais transmettre ton expérience à un jeune de 10 ans qui rêve d'être top 100, tu lui dirais quoi?
Alors, je lui dirais de prendre son temps, parce que 10 ans, c'est jeune. Voilà, de kiffer, de toujours être content d'aller sur le terrain. Donc voilà, c'est pas grave si un jour il n'a pas envie d'aller jouer, bah, à la limite qu'il n'aille pas jouer. C'est pas maintenant que c'est important, c'est se détacher un maximum des résultats, parce que au final ça sert à rien d'être champion de France à 14 ans si à 16 ans on joue plus au tennis, quoi, d'être champion du monde. Voilà, c'est au final ce qui est important, c'est plus tard, c'est entre 18 et 35 ans, on va dire. Donc voilà, pas se mettre de pression pour les résultats, même si malheureusement ça peut être les parents, ça peut être les entraîneurs, les fédés, voilà, t'es un peu obligé d'avoir des résultats quand même aujourd'hui si tu veux des aides. Voilà, essayer un maximum de se mettre loin de tout ça, d'essayer de progresser, d'avoir une identité de jeu et de s'y tenir, et voilà, de penser qu'à ça plutôt que absolument vouloir gagner tout de suite.
C'est intéressant que tu parles de l'identité de jeu et de s'y tenir. C'est pas le genre de truc que je m'attendais à entendre, mais
bah, il y a matière. Quand on est jeune, si on a absolument envie de gagner, donc à la limite, s'il faut limer pour gagner, on va limer. Alors qu'au final, c'est peut-être pas comment tu as envie de jouer, donc c'est peut-être pas comme ça qu'il faut voir le truc. Donc voilà, c'était Zverev qui parlait bien de ça, je crois. J'avais lu une interview où son père lui avait dit, en gros, quand il était jeune, à 14 ans, continue de frapper. On s'en fout, c'est pas maintenant qu'il faut gagner, c'est plus tard. Donc tu te construis maintenant pour pouvoir gagner plus tard, quoi.
Qui avait dit ça?
Je crois que c'était Zverev dans une interview qui avait dit ça, qui avait dit en gros on s'en fout d'être champion du monde à 12, 14, 16 ans, c'est plus tard qu'il faut gagner.
Est-ce que tu pratiques la visualisation et la méditation?
Non, Pas du tout. Peut-être que pendant le confinement, je vais essayer de faire un peu de visualisation. Honnêtement, je ne l'ai pas encore fait.
T'es le premier qui me dit qu'il ne fait pas de visualisation.
Non. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans la visualisation, mais avant de dormir, je peux m'imaginer en train de gagner Roland, quoi, ou gagner un match. Mais je ne me pose pas là en me disant, allez, voilà, quoi. Enfin, je ne sais même pas, il faudrait que je me renseigne, mais je ne suis pas réfractaire à ça du tout. Ça doit être très bien, ça doit marcher. Pour l'instant, je ne me suis pas mis là-dedans. Ça arrivera, hein, sûrement. De toute façon, je vais tout essayer avant la fin de ma carrière.
Est-ce que tu as vécu des trucs sympas à raconter avec le Big 3, à savoir Djoko, Rafa ou Nadal ou Federer, hein?
Malheureusement, j'ai jamais pu taper avec eux. Après, non, je les connais pas. Je sais que, voilà, maintenant que je les croise un peu plus dans les vestiaires, voilà, ils disent bonjour, hein, les mecs. Rafa, surtout, il dit toujours bonjour dès qu'il te croise. Allez, on va dire que quand cette année à l'US, j'ai gagné mon premier tour de qualif 7-6-6-7-7-6, il faisait très très chaud, j'étais rôti. Et dans les vestiaires, Rafa, il est passé, il m'a dit bien joué, parce qu'on peut voir les matchs sur les écrans. Donc voilà, j'étais très content que Rafa me félicite pour un premier tour de qualif, quoi. J'ai trouvé ça beau. Mais non, j'ai pas d'anecdote avec eux, j'ai jamais joué avec eux. Donc voilà, pas grand chose à raconter.
Tu kifferais aller faire une prépa comme Gasquet a pu le faire à Manacor chez Rafa ou quelque chose comme ça avec Roger, disons.
Ouais, ça, c'est sûr, c'est cool, hein, de pouvoir s'entraîner avec des joueurs comme ça. C'est quand même des légendes du tennis, voire même du sport en général. Pour moi, on a la chance d'avoir les trois légendes et qui sont peut-être qui sont des légendes du sport, tout sport confondu. Donc, ouais, c'est sûr que ce serait incroyable de pouvoir faire ça.
Tout à l'heure, tu parlais de nos légendes à nous, actuelles, à savoir, on peut parler de Joe et de Richard, que tu côtoies pas mal sur de la prépa physique ou autre. Qu'est-ce que tu as vécu de sympa avec eux et comment tu essaies de t'en inspirer ?
Avec Joe, qui est quand même, les gens ne se rendent pas compte, je pense, de sa carrière en France. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il a fait. Il a quand même un palmarès dans le tennis mondial. Je pense que 99% des joueurs rêveraient de l'avoir. Donc de pouvoir le côtoyer, en plus il adore partager, voilà, il donne toujours des conseils, moi il m'a donné pas mal de conseils en coup droit, dès qu'on s'entraîne ensemble, pas qu'avec moi, avec tous les joueurs de l'académie par exemple, il a toujours un petit mot, un petit conseil, il essaie de booster, donc voilà, il est très sympa là-dessus, à ce niveau-là, donc il est énormément dans le partage, et pareil, Richard est quelqu'un de très drôle, donc on se marre bien avec lui, voilà, pareil, il a une énorme carrière, à s'entraîner avec lui c'est un régal parce qu'il rate pas une balle, c'est frustrant parce que ça paraît très facile, quand t'es en face, tu te dis bon, bah, tu sais pas trop quoi faire, surtout à l'entraînement. Donc, c'est une chance de pouvoir s'entraîner avec ces mecs-là parce que voilà, t'apprends beaucoup. C'est quand même des mecs qui ont battu les meilleurs. Joe, il les a tous battus dans le Big Three. Donc, il a fait finale en Grand Chelem. Les mecs, ils ont tous fait demi. Donc c'est sûr, quand il te donne un conseil, t'écoutes, quoi. C'est une chance de pouvoir les côtoyer.
Ta plus grosse fiesta sur le circuit ?
Je dirais en Coupe Davis. Quand ils ont gagné la dernière fois, j'étais pas sparring, mais j'étais venu le dimanche. Le samedi, j'avais match par équipe, donc je pouvais pas venir. Donc j'étais venu le dimanche à Lille, et le dimanche soir, on s'en est mis une bonne. Et quand on avait perdu l'année d'après, on fêtait en gros la fin de la Coupe Davis. Donc même si on avait perdu, c'était pas la défaite, c'était plutôt en gros la fin de la Coupe Davis. Et on était tous réunis. Et c'était bien Michel.
C'est énorme. Le cours d'entraînement le plus improbable sur lequel tu es joué ? Un cours, je sais pas, au milieu de la jungle ou entre deux montagnes ?
Je dirais, il y a un cours d'entraînement à Bagnères-de-Bigorre, au futur, juste en dessous de la montagne. Donc, chaque fois qu'on y allait, tous les joueurs, quand ils vont, ils essaient de balancer une balle par-dessus. Et voilà, c'est un très beau cours, il est très sympa, donc je vais dire celui-là.
La meilleure partie de ton métier de joueur de tennis professionnel ?
Même si au début j'aimais pas trop ça, ça reste les voyages. Maintenant, les tournois ils sont tout le temps dans des villes plutôt cool, plutôt sympa, donc c'est toujours agréable. On sait qu'on va pas s'ennuyer, quoi.
Et ce qui te fait le plus chier ?
Faire les valises. Même si les voyages sont cool, c'est devoir faire la valise, tout sortir et parfois le lendemain ou parfois même le jour même, tout réemballer et repartir, quoi. Et le temps d'attente dans les aéroports, c'est quand même, on y passe du temps.
À ce jour, t'as gagné 1 300 000 dollars. Quel regard tu portes sur ce montant?
J'aimerais bien avoir ça sur mon compte. C'est beaucoup, mais après, faut se rendre compte que c'est pas du net. Faut enlever les taxes dans chaque pays et surtout qu'on a beaucoup de frais aussi. Et plus on monte dans le classement, plus on investit dans sa carrière, donc plus on a de frais. Donc voilà, ça peut paraître énorme comme ça sur le montant, mais au final, il nous reste pas du tout ça. Et c'est surtout sur toute ma carrière, donc depuis que j'ai commencé les futurs, donc depuis que j'ai, on va dire, 16 ans, 17 ans, donc j'ai gagné de l'argent sur les deux dernières années. Voilà, j'ai pu mettre de l'argent un peu de côté. Avant, pas du tout. Avant, je perdais de l'argent. Donc voilà, je pense que sur toutes mes années, toutes les dépenses depuis que j'ai commencé, en gros, on va dire, depuis l'INSEP, je suis pas sûr d'être encore dans le positif. Ça va arriver, j'espère, si je continue à être dans ce classement, mais je suis pas sûr que ce soit le cas.
Combien te coûte une saison actuellement?
On va dire en structure, juste la structure sans, sans les frais de tournoi, pour moi et pour mon coach. À peu près 80 000 euros, 75 000 euros. Et après, il faut rajouter les frais pour mon coach, pour moi, les avions, les hôtels, la bouffe, tous ces trucs-là. Quoi. Donc, on va dire peut-être 150 000, un peu moins.
Ça te fait quoi de te dire que tu aurais pu être entraîneur de tennis au moment où tu étais à deux doigts de lâcher et tu aurais pu te faire plaisir ou quoi? On ne met pas ça en question. Ouais. Mais qu'elle a quand même dans l'élite du tennis mondial et que tu peux potentiellement gagner des millions, enfin, ça te fait quoi de te dire ça?
C'est vrai que quand j'y pense, ouais, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, d'avoir pris le temps de cette réflexion et d'avoir eu du monde derrière moi qui m'a poussé pour faire entre guillemets le bon choix de continuer. Donc voilà, c'est sûr que maintenant ça change tout. J'adore regarder les matchs, je vais sur les tournois, je vais voir les potes, je vais voir. Je reste pas forcément dans ma chambre d'hôtel, tu vois, je vais surtout tout le temps voir les Français, donc j'aurais aimé coacher, voilà, c'est quelque chose que je pense que j'aimerais faire plus tard. Là, j'ai dit déjà à Thierry, je lui ai dit, écoute, si on reprend pas le tennis d'ici là, moi cet été, je peux venir donner des cours à l'académie, y a pas de problème, j'aime bien ça, donc j'aurais pas été malheureux, j'aurais eu des regrets, c'est sûr, mais donc je suis très content d'avoir pris cette décision-là, quoi.
Yes. Tu te souviens du premier gros chèque que t'as encaissé, ce que t'as ressenti?
Ouais, bah c'était à Roland, la première fois que j'ai eu Wildcard tableau, je me suis dit, wow, putain, autant d'argent d'un coup. J'avais pas calculé que derrière, j'allais avoir les taxes en plus en fin d'année. Donc voilà, mon père, il était là pour me dire, calme-toi, faut en mettre quand même beaucoup de côté, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc non, avec juste avec le... J'ai acheté ma première télé, une belle télé à la Fnac. Grâce à ce chèque-là, c'est tout. J'ai pas fait de grosse folie, quoi.
C'est que c'était énorme parce qu'hier, je pose la même question. Enfin, la question d'après. Je lui dis quelle a été ta plus grosse folie financière. Je la pose à Paul-Henri Mathieu.
Ouais.
Et il me dit à l'époque, je rêvais d'avoir le Nokia qui s'ouvrait comme ça, qui était en couleur, le tout premier.
Ouais.
Et il a demandé à son père s'il pouvait l'acheter, tu vois. Alors que.
Ouais, moi, j'ai dû demander à mon. Je me souviens plus, mais voilà. Dès qu'il y avait un achat assez fort, j'écrivais à mon père, tu penses que je peux le faire? Des fois, il disait non, des fois, il dit oui, c'est bon, vas-y, fais-toi plaisir.
Selon toi, c'est quoi la définition de la richesse?
C'est quand même les voyages, apprendre à connaître du monde. J'ai un trou pour le mot, pas plusieurs cultures, voilà, voilà, apprendre un peu à vivre un peu partout dans le monde, quoi, parce qu'on ne vit pas tous de la même manière, donc je vais dire que c'est ça.
Quelle est ton intuition sur l'évolution du jeu? Tu sais, ce qui est avec les tests sur la next gen, etc. Est-ce que tu vois un truc en particulier arriver dans le tennis?
J'ai un peu peur que le format il change complètement, qu'on passe en 7-2-4 jeux, un peu ce qui se passe à la next gen en ce moment. J'ai un peu peur de ça quand les membres, quand Roger, Rafa et Djoko partiront à la retraite. J'espère pas parce que nous, depuis toujours, on joue avec les 7-6 jeux, voilà, les 5-7 en grand chelem. C'est quand même, quand t'es joueur de tennis, c'est ce qui fait vibrer. Ça amène une autre saveur quand tu sais que t'arrives t'as une semaine d'un grand chelem, que tu te prépares pour jouer 5-7, donc peut-être jouer 4 heures de suite, alors qu'il peut faire 35 degrés, très humide. C'est une adrénaline en plus et quand tu sors d'un combat comme ça et que tu te dis ouais, je l'ai fait, je me suis battu, j'ai réussi à gagner, c'est autre chose que de gagner un match 7-6 au troisième durant toute l'année. Donc j'espère vraiment qu'on va pas aller vers là. Après, je pense qu'il y aura toujours des améliorations comme ça. C'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a 20 ans, ils pouvaient dire que les mecs aujourd'hui retourneraient tout sur leur ligne, pourraient jouer des heures, je sais pas. honnêtement, aujourd'hui, je vois pas comment on peut trop améliorer le jeu. Alors, peut-être retourner un peu plus voilà, au filet pour essayer de perturber, parce que maintenant, on est vraiment tous très solides du fond, on frappe tous très fort. Il n'y a plus vraiment de joueurs qui ont d'énormes coups faibles comme il pouvait y avoir avant, quoi. Donc, ouais, les joueurs sont vraiment tous très complets maintenant. Donc, je sais pas trop, voilà, c'est, je suis curieux de voir dans, voilà, on se reparle dans 15-20 ans et voir comment le tennis a évolué. J'ai pas trop d'idées pour le moment, mais j'espère juste que le format de jeu va essayer de rester comme il est maintenant.
On se refait un épisode dans 15-20 ans, ça roule. Voilà. T'as, je crois, 7000 abonnés sur Insta. Comment est-ce que tu gères tes réseaux sociaux et combien de temps tu y passes par jour?
J'ai un peu du mal, moi, avec ça. J'essaie de m'y mettre de plus en plus parce que je sais que c'est important, voilà, pour les marques, pour mon image. Donc, j'essaie de mettre un peu plus de choses quand je m'entraîne. J'aime pas du tout me montrer à l'entraînement. Ça fait marrer mes coachs et tout. Marco, il adore me filmer en secrète et à chaque fois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Range ton téléphone, je veux pas que tu me filmes. Mais je sais que c'est important, donc j'essaie de le faire un peu plus. Après, moi, j'y passe du temps comme tout jeune maintenant. Hein. Je regarde tout ce qui se passe. Je suis beaucoup sur Twitter. J'adore Twitter. Encore plus maintenant, je suis toutes les infos autour du corona. Donc voilà. Après, ouais, c'est sûr que pour moi et pour ma carrière, je pourrais faire beaucoup mieux. Je vais essayer de faire un peu mieux, de mettre plus de choses, de partager plus de choses. Mais voilà, je progresse petit à petit.
On va t'aider avec ce contenu-là, en tout cas.
Merci.
Quels sont les 3-4 comptes que tu préfères suivre?
Sur Twitter, j'adore suivre Marco parce qu'à chaque fois, il cherche un peu les petites bêtes. Parfois même, voilà, il y a des petites embrouilles. Je lui écris, je lui dis ça, tu réponds pas, Marc, et tu te laisses faire. Voilà, sur Twitter, on va dire Marc. En ce moment, sur Twitter, je suis beaucoup sur le truc, le Twitter de conflit. Alors, je ne sais plus exactement, donc ils mettent pas mal de news. Sur Instagram, les joueurs du PSG, on va dire. Voilà, je suis le PSG et mes potes, quoi.
Le plus grand moment que tu as vécu au Parc des Princes, justement?
On va dire, alors c'était pas au Parc des Princes, c'était au Stade de France. J'avais été voir PSG Marseille en finale de Coupe de France quand Kalou et Dorasso, ils avaient marqué. Dorasso, il marque jamais, il est marqué en dehors de la surface de réparation. Donc voilà, c'était un grand moment. Et puis après, j'ai eu 2-3 matchs de Ligue des Champions ces dernières années et j'ai bien kiffé aussi.
Est-ce que tu aimes bien lire ce que l'équipe écrit sur toi?
Oui, pour le moment, ça va. Ils sont assez gentils avec moi. Pour le moment, ça va. Voilà, quand t'es, voilà, je pense que c'est un peu plus dur quand tu es dans les tops parce qu'ils attendent beaucoup de toi, du coup. Et les gens en France attendent beaucoup de toi, comme un Joe. Tout le monde attendait qu'il gagne un grand chelem. Donc parfois, ça peut être peut-être un peu plus dur pour un joueur comme ça plutôt que pour un joueur comme moi qui arrive dans les 100 et où il n'y a pas grand-chose à dire encore sur moi, on va dire.
T'es du genre à mater des vidéos YouTube que les fans postent de toi?
Non, ça peut m'arriver, mais non, je vais pas trop sur YouTube. J'y allais plus avant, quand j'étais un peu plus jeune, où je regardais beaucoup de highlights, de matchs. Non, je regarde pas trop de choses sur moi. Je regarde un peu après mes matchs, de temps en temps, mes matchs pour voir un peu ce que j'ai fait de bien et un peu de moins bien. Mais pas énormément quand même.
Est-ce qu'il y a une période où t'as pris le boulard?
Je pense que c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Peut-être demande à Marc samedi. J'espère que non. Si oui, bah j'en suis désolé. Ça peut arriver, voilà, ça arrive à tout le monde, mais j'espère que non, sincèrement. Et j'espère que si je le prends, on me le dira, quoi.
Jusqu'à aujourd'hui, quel est le plus gros regret de vis-à-vis de ta carrière de tennis pro?
En termes de tout ce que j'ai fait jusqu'ici, de structure, tout ça, j'en ai pas parce que chaque fois que j'ai pris des décisions, j'étais toujours en accord avec moi-même, j'étais très content sur le moment, même si ça n'a pas toujours marché, j'ai toujours appris plein de choses. Puis ça m'a permis de grandir en gros et de me connaître, de savoir ce que j'avais besoin. Après, sur les matchs, il y a toujours des regrets. Voilà, un match que je perds, peut-être 7-5 ODR, qui aurait pu me faire faire une finale ou prendre pas mal de points en plus pour me faire intégrer un tableau en plus, ou peut-être un match que j'ai balancé, alors que j'aurais pas dû parce que ça arrive quand même. Un match qui finalement à la fin de l'année aurait dû être important. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais si, il y a celui contre Albano, je répète souvent, qui m'a fait énormément de mal, et c'est un peu suite à ça que j'ai plus gagné de match non plus, donc que j'ai commencé à descendre au classement. Donc on va dire celui-là et celui à Roland en menant 2-7-0 m'a fait beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de regrets. Il y a un moment sur balle de break, je crois que je mets un revers long de ligne qui sort de ça et d'habitude ça rentre, et ben là c'est pas rentré et j'ai perdu derrière.
Et ta plus grande fierté?
Ah, c'est d'être. Il y a celui à Wim où je remonte 2-7-0, où derrière j'étais vraiment voilà, très content, très soulagé. Et il y a eu aussi le match à Tis au 5ème que je gagne à l'US. C'est le match qui me fait rentrer dans les 100. En même temps, on a joué 4 heures. m'a toujours dit que j'avais pas un bon physique, que je tenais pas, que je bossais pas assez quand j'étais jeune. On m'a toujours dit que j'aimais pas ça. Donc c'était un bon petit pied de nez à tous ceux qui disaient ça. Et puis moi, me prouver que je pouvais tenir. Et puis en même temps, je rentrais dans les cendres. Donc, on va dire que ce match-là.
Là, t'es avec Lacoste. Avant, t'étais avec le Coq.
Ouais.
Et avant, t'avais un autre sponsor.
Nike pendant 6 ou 7 ans. Après, ouais. J'ai fait un an Adidas et 3 ans le Coq. Et là, je viens de signer chez Lacoste.
Donc, le tout premier, c'était Nike.
Alors j'ai eu un tout petit contrat de magasin quand j'avais 14 ans avant d'avoir Nike avec Diadora, le magasin qui me cordait. J'avais les tenues de Lubitschik, là, blanches avec noir sur le côté et le liseré jaune, quoi.
Énorme. Tu te souviens justement de la toute première dotation de fringues que t'as reçue, ce que t'as ressenti surtout?
Là, ouais, quand je suis arrivé chez Nike, je passais à un autre niveau, quoi. Je me souviens, on allait chez Mouratoglou, il me semble, à l'époque, quand ils étaient à Tiverval. On allait chercher notre sac, donc tu repartais avec un gros sac plein de fringues et un autre sac avec des chaussures. Donc voilà, j'en avais même beaucoup trop parce que j'avais je me souviens, j'avais rencontré Philippe Weiss à l'époque qui était chez NEC au Petit As. Donc j'avais signé après dans la foulée et ouais, pour mon âge, j'avais beaucoup trop, quoi. Donc, mais ouais, je m'étais waouh, je suis un petit pro, quoi.
C'est bon ça. J'étais à Mouratoglou quand j'avais 14 ans et Nico Copain m'a entraîné pendant 3-4 tournois. J'avais pris une grosse soufflante une fois par lui. J'avais ramassé contre un 15-1. Putain, j'avais pris cher. J'ai quelques questions de fin qui sortent un petit peu du cadre tennis qui sont communes à toutes les interviews. Si t'avais pas été joueur, du coup, t'aurais fait quoi, tu penses?
En vérité, je me suis jamais posé la question réellement. Quand j'étais petit, j'adorais jouer au tennis, donc je m'étais dit que je serais joueur, voilà, depuis tout petit, sans vraiment le penser, donc je sais pas trop. C'est dur à dire quand t'as fait que ça, c'est très dur à dire. J'aurais été dans le sport, je pense, dans tous les coups. Alors je sais, j'aurais pas été sportif professionnel dans un autre sport parce que à part le tennis, au foot, je suis pas très bon. Voilà, j'essaie de me battre, mais comme je peux, je suis pas bon. Dans les autres sports, j'ai un peu de mal. J'aurais peut-être été, bosser pour une marque dans le sport ou quelque chose comme ça, mais difficile à dire.
Pour revenir sur le PSG, quand t'es en tournoi, tu te démerdes tout le temps pour regarder le match le dimanche soir?
Ouais, j'essaie de regarder le maximum possible. Après, quand je suis en Australie et que c'est en pleine nuit aux États-Unis, sauf si c'est un match de Ligue des Champions, je vais pas me lever pour un match de championnat. Mais ouais, j'essaie dès que je peux de regarder le match. Voilà, là, à Indian Wells, on était tous. On a réussi à brancher le téléphone de Nico Mahut sur un petit écran en face du practice desk pour pouvoir voir le match contre Dortmund. En même temps, on savait que Miami allait être allumé, qu'on pouvait rentrer, donc fallait changer les billets d'avion, mais on s'est dit, bon, on se laisse une heure et demie, de toute façon, on regarde le match tranquille, tous ensemble. Les gens, ils passaient entre, parce qu'on était dans un couloir. Donc voilà, on se démerde toujours pour regarder les matchs.
Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée?
Si je me suis bien entraîné, c'est quand je m'entraîne, quand les jours où il y a entraînement. Voilà, si je suis d'être tranquille, être ma copine chez moi, j'aime bien passer du temps aussi tranquille dans mon canapé. On se fait un petit dîner et voilà, d'être tranquillou, relax, quoi. Un peu comme tout le monde, on va dire. Je suis pas difficile.
Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne?
Qu'est-ce que je fais? En ce moment, j'essaie de lire. Je lis pas beaucoup. J'essaie de lire et m'instruire. Je lis l'histoire de France pour les nuls. Voilà, non, j'essaie d'aider un peu à droite à gauche, d'être un peu solidaire avec les gens autour de moi et encore plus dans une période comme celle-ci.
Le plat que tu cuisines le mieux?
Les cacio e pepe, les spaghettis cacio e pepe.
C'est quoi, Nico?
C'est très simple, c'est un plat romain avec beaucoup de poivre et beaucoup de parmesan.
Ok.
C'est très simple.
Même si tu lis pas beaucoup, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué?
Alors, ouais, j'ai lu très rapidement, je me suis même surpris, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu en 5-6 jours, alors que franchement, les derniers livres que j'avais lus, c'était pour les cours, au lycée, au collège. Et depuis, j'ai lu des autobiographies un petit peu de sportifs, mais quand je prends un livre comme ça, souvent, un roman ou un truc, je le commence, je le finis jamais.
Et la vérité sur Harry Kébert, qu'est-ce que t'en as tiré?
Ça fait un moment que j'ai lu, mais je sais pas, c'était l'intrigue de savoir ce qui se passait à la fin, ça me rendait fou. Donc à la limite, c'était comme une série qu'on n'a pas envie de finir, où on se couche pas, donc j'arrivais pas à me coucher, et je voulais absolument savoir le dénouement, et voilà, c'était pour ça que ça me rendait dingue, quoi.
Un film que tu kiffes particulièrement?
8 Miles. On voulait le regarder hier, on n'a pas trouvé de streaming, mais j'adore ce film.
Le concert le plus dingue auquel tu as assisté?
J'ai jamais fait de concert. J'aimerais bien en faire, mais souvent on est rarement là, donc c'est dur de prendre des places à l'avance. On sait même pas dans 3 semaines où est-ce qu'on sera à chaque fois sur les tournois, donc c'est compliqué, mais c'est dans ma to-do list pour les prochains trucs à faire.
Aujourd'hui, avec ton recul et puis ton évolution, le fait que tu sois en train de t'accomplir pleinement, qu'est-ce que tu dirais au Greg qui était dans le trou total au moment où il a hésité à arrêter ?
D'essayer de prendre du plaisir tout le temps sur le terrain. Parce que c'est, au final, ça reste notre métier, donc c'est pas forcément évident. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui peuvent craquer ou on peut avoir des baisses de régime. Donc toujours essayer de kiffer, de profiter, de se dire qu'on a quand même beaucoup de chance de faire un métier qui est notre passion à la base. Même si, voilà, pour rien cacher, on l'oublie quand même, je pense, souvent pour la plupart. Donc au bout d'un moment, donc ne pas oublier que ça reste une passion et un jeu à la base.
D'accord. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien ?
C'est à la fin du bal qu'on paye les violonistes. Je sais pas si c'est la citation exacte, mais je la répète toujours parce qu'on nous répète souvent, voilà, que on m'a souvent répété que voilà, j'arrive un peu sur le tard dans le top 100 ou que voilà, que je suis en retard par rapport aux autres. Donc souvent je répondais ça, quoi.
Ok. Pourquoi avoir accepté cette interview avec Tennis Legend ?
Bah déjà je refuse rarement. Si on n'a pas de mes nouvelles, c'est que soit j'ai peut-être zappé ou j'ai pas forcément vu, mais donc je refuse vraiment les interviews, et, etc. Et parce que bah, Tennis Legend, c'est un peu mythique quand même. Hein. On vous voit partout, on voit toujours les très beaucoup, des hot shots. Quand je suis en challenger ou quand je croise par exemple Constant ou d'autres potes, Constant Lestienne, on parle toujours que de ça, c'est le premier truc. Quoi. C'est, par exemple, Constant, son objectif, c'était à chaque fois de finir sur Tennis Legend. Donc voilà, on en parlait souvent. Donc voilà, c'était important. Voilà, je suis très content maintenant de pouvoir dire. Je suis sur Tennis Légende.
Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici, avec laquelle on pourrait parler tennis en français, et surtout que tu pourrais nous aider à avoir ?
Comme ça, je dirais, il y a beaucoup de personnes. Tout le monde est intéressant, tout le monde a une histoire. Allez, on va dire Mathias Bourg, pour passer le relais.
Ok, trop cool. Quel est, pour terminer, le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter ?
Aller le plus loin possible en Grand Chelem. Voilà, dingue, je vais pas dire gagner un grand chelem parce que les gens ils vont dire il est prétentieux et tout ça alors que c'est un rêve, mais maintenant j'ai l'impression qu'il faut faire toujours attention à ce qu'on dit, donc sinon ça nous retombe toujours dessus, mais voilà, aller le plus loin possible en grand chelem et si possible à Roland devant tout le monde, devant les Français.
Bien. Bon, bah, génial, merci beaucoup Greg d'avoir pris le temps.
Pas de soucis, merci pour toi.
À plus.
Parfait. Allez, ciao.
Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Greg d'avoir joué le jeu. Suivez-le sur Insta et dites-lui si l'épisode vous a plu. Venez aussi nous le dire en commentaire, ça permet de faire connaître la chaîne et nous motive comme jamais à continuer chaque semaine. Alors lâchez-vous vraiment. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des invités de renom. Un grand merci à Tib, Ernest, encore une fois, et Petro, pour vos derniers commentaires. On est à 492 notes, objectif 500 pour la semaine pro, alors foncez dès maintenant, nous filez un coup de main. Petro nous écrit d'ailleurs « Quelle claque !» le podcast de Stéphane Houdet, Fanou pour les intimes. Merci Petro pour ton retour, ça fait chaud au cœur. Une autre tactique à mettre en place et qui fait la diff, c'est le bouche à oreille. Je vous garantis que ça marche, alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes, et abonnez-les directement sur leur téléphone, comme ça on est peinard. Pense aussi à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barreau, premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi, juste en dessous. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci à Emeric, qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur une fois de plus. Ce podcast, c'est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode. Et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Merci donc aux tipeurs récurrents et à Emeric, qui nous a d'ailleurs écrit... Que ce soit durant mes sorties vélo du week-end ou mon sport, voire la voiture, je ne manque pas un épisode, émission préparée au top. Des questions plus que pertinentes, des anecdotes top sur le tennis et des invités passionnants. Bref, au top du top. C'est adorable en tout cas, merci encore Emeric. Si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout, n'hésitez pas. Voilà, les légendes, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao.